Petit paquet avec le petit trésor dedans ce matin. Je l'ai récupéré juste au parking à la voiture. Et quand je suis rentré, les gens, ils ont dit, certains ont dit, ouais, voilà l'héros du jour. Et j'ai très bien compris ce qu'ils veulent dire. Et effectivement, aujourd'hui, on se réjouit pour cet enfant. Mais en tant que chrétien, pour nous, l'héros du jour, c'est toujours le même. C'est Dieu. Aucun autre héros, si ce n'est notre Dieu. Je pensais à une histoire où Jésus critiquait les superstitions humaines, et en particulier les superstitions des religieux. Et il disait, si tu jures par le temple, oh, c'est pas grave. Par contre, si tu jures par l'or du temple, alors là, tu as intérêt à obéir et à faire ce que tu as dit. Et Jésus leur dit, hypocrite. Qu'est-ce qui est le plus important, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Et j'espère ne pas vous faire outrage, mais ce matin, on va célébrer, on va louer, on va réfléchir ensemble sur le temple, ou plus exactement, on va réfléchir ensemble sur ce qui a donné une valeur à nos vies, à nos existences, à notre humanité. Alors, je sais que, en tant que chrétien, quand on se lève le matin, oh, on ouvre les yeux, je suis en vie. Merci Seigneur. Tout de suite, on a dans nos têtes des images qui nous passent. Mes amis, oh, merci Seigneur. Ma famille, merci Seigneur. Et on passe notre temps à dire merci Seigneur. On va au boulot, on travaille, puis on dit merci Seigneur. Et tous les dimanches, on se réunit ensemble, tous les frères, on se réunit ensemble avec cette idée, on va dire merci Seigneur. Et Youssef et Amy nous ont dit, tiens, lorsqu'on dira merci à Dieu, est-ce qu'on pourrait dire merci particulièrement pour ce merveilleux cadeau qu'il nous a donné? Et on a dit, bien sûr, pour nous chrétiens, tout est prétexte à louer le Seigneur, tout est prétexte à l'honorer. J'ai choisi deux passages, je n'ai pas été chercher bien loin. Alors le premier se trouve en Ésaïe, au chapitre 8, et on va lire jusqu'au chapitre 9, verset 5. Et le deuxième, ce sera dans Jean 3, 16. Alors comment j'ai pu arriver à une telle idée? C'est, il parle d'enfant. Je n'ai pas été chercher bien loin. Alors je vous propose ce premier texte. Donc, Ésaïe 8, à partir du verset 23. Alors je fais la lecture, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des païens. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Je vous invite à sauter maintenant dans le Nouveau Testament et on va retrouver à peu près les mêmes expressions, mais dans la bouche de Jésus. Alors Jean 3, 16. Je vais même commencer à partir du verset 14, ça nous donnera un peu le contexte. Alors Jean 3 et 14, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Voilà pour la lecture. On va s'incliner quelques instants dans la prière. Père éternel, Dieu de l'univers, toi qui es le Créateur, le Tout-Puissant, ensemble, nous voulons nous prosterner devant toi. Nous te connaissons, nous connaissons ta puissance. Nous connaissons, Seigneur, ta sagesse. Nous savons qu'elle est infinie, que rien ne t'est impossible. Nous savons que c'est toi qui tiens dans le creux de tes mains la poussière des étoiles, que tu leur as donné un nom à chacune. Nous savons que les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir, que tu es éternel d'éternité en éternité. Oui, Seigneur, nous nous prosternons devant toi pour t'adorer, pour te dire combien nous t'aimons. Seigneur, nous nous prosternons aussi sans comprendre pourquoi toi qui es si puissant, si grand, ton cœur est tourné vers nous. Comment se fait-il que tu nous aimes au point d'envoyer ton Fils pour donner sa vie pour nous. Seigneur, nous te bénissons. Nous voulons encore nous souvenir de nos bien-aimés qui ne sont pas là, ceux qui passent par la maladie, ceux qui en sont éloignés, qui n'ont pas pu venir ce matin. Et Seigneur, dans ta grâce, nous te demandons de les bénir là où ils sont. Seigneur, avec Amy et Youssef, nous nous tournons aussi vers cet enfant. Et nous reconnaissons bien là, Seigneur, ta main. Bien des enfants naissent. Notre monde voit sans arrêt des nouvelles naissances. Mais la différence, Seigneur, c'est que nous reconnaissons que c'est ta main qui donne. Et pour cela, nous te disons aussi merci. Gloire à toi, Père céleste, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors avant d'aller dans ces deux textes, j'aimerais vous lire un petit passage dans Genèse. Alors, on va aller au verset 20, chapitre 23. Et je vais faire la lecture à partir du verset 7. C'est juste pour vous donner une idée de ce livre que nous ouvrons ce matin, sa valeur, que c'est la parole de Dieu. Alors là, on connaît l'histoire d'Abraham, comment Dieu l'a appelé, et il lui a dit « Quitte ta famille, ta patrie, va dans un lieu que je te montrerai. » D'ailleurs, on le lira tout à l'heure. « Et là, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, etc. » Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Ça, c'est la promesse, c'est l'appel que Dieu avait fait à Abraham. Et là, Abraham est parti, il a attendu la promesse de Dieu et il a reçu les bénédictions de Dieu jusqu'au jour où son épouse est morte. Et là, il se dit, il faut que je l'enterre. Comment l'enterrer ? Il est dans une terre étrangère. Dieu lui avait dit, laisse tomber ton pays, viens dans un pays, je te le donnerai après. Mais là, pour l'instant, il n'a rien. Alors, pour enterrer son épouse, voilà, il négocie avec les gens du pays. Alors, il s'agit des Hittites. Peut-être certains qui aiment bien l'histoire connaissent. C'est une civilisation qui a disparu, mais c'était une très, très grande civilisation qui était dans le pays à l'époque. Mais dans le texte, il ne parle pas des Hittites, il dit les fils de Heth. Vous voyez ? Et là, donc, Abraham essaye d'avoir un terrain pour enterrer sa femme. Abraham se leva et se prosterna devant le peuple du pays, devant les fils de Heth. Et il leur parla ainsi. Si vous permettez que j'enterre mon mort et que j'ôte de devant mes yeux, que je l'ôte de devant mes yeux, écoutez-moi. Et priez pour moi, Éphron, fils de Tsochar, de me céder la caverne de Macpéla, qui lui appartient à l'extrémité de son champ, et de me céder contre sa valeur en argent, afin qu'elle me serve de possession sépulcrale au milieu de vous. Éphron était assis au milieu des fils de Heth, et Éphron dit, le Héthien répondit à Abraham, en présence des fils de Heth et de tous ceux qui entraient par la porte de sa ville. « Non, mon Seigneur, écoute-moi. Je te donne le champ et je te donne la caverne qui y est. Je te les donne aux yeux des fils de mon peuple. Enterre ton mort. » Abraham se prosterna devant le peuple du pays et il parla ainsi à Éphron en présence du peuple du pays. « Écoute-moi, je te prie. Je donne le prix du champ. Accepte-le de moi. » et j'y enterrerai mon mort. Et Éphron répondit à Abraham en lui disant, « Non, Seigneur, écoute-moi, une terre de 400 sicles d'argent, qu'est-ce cela entre moi et toi? Enterre ton mort. » Abraham comprit Éphron. Et Abraham pesa à Éphron l'argent qu'il avait dit, en présence des fils de Heth, 400 sicles d'argent, ayant cours chez le marchand. Alors pourquoi je vous raconte cette histoire? Ça a l'air de rien avoir à voir avec les textes que je vous ai lus tout à l'heure. C'est juste pour qu'on se rende compte que ces textes, c'est la réalité. Il n'y a pas longtemps, aux informations, j'ai écouté un problème qu'il y a à Hébron, je crois, où certains, les Palestiniens, s'occupent justement du tombeau d'Abraham. Et donc certains disent, mais c'est à nous, on a été ici depuis longtemps. Et puis d'autres disent, mais non, notre ancêtre a acheté le terrain devant le peuple, etc. Vous voyez, on n'est pas en train d'aborder une légende, on est vraiment en train d'ouvrir la parole de Dieu. C'est comme une machine à remonter le temps qui nous permet de découvrir ce qui s'est passé dans le passé. Les Hittites, ce peuple, étaient là. Et Abraham était là. Et aujourd'hui, des milliers d'années après, on trouve les traces de ce que la Bible nous dit. Il y a un autre texte que j'aurais pu prendre. J'avais imaginé qu'un jour, je l'aborderais en mettant une carte du monde et demandant aux gens, essaye de trouver Israël dessus. C'est difficile. Parce que c'est petit, c'est deux départements français à peu près. C'est tout petit, tout petit, tout petit. Et dans Zacharie 12, Dieu dit, voici dans les derniers temps, je ferai de Jérusalem une pierre d'étourdissement pour toutes les nations. On va le prendre ce texte. Donc Zacharie 12, alors au verset 1, oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici. Je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour et pour Juda dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui le soulèveront seront meurtris par elle et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Là, je suis peut-être même allé un peu trop loin dans la prophétie puisque on ne voit pas encore que les nations de la terre s'assemblent contre elle. Mais pour dire, c'est tout petit, on ne le voit pas dans une carte. Et là, bien avant Jésus-Christ, Dieu dit par son prophète, voilà, dans la fin des temps, il y aura des problèmes. Tellement que toutes les nations de la terre se réuniront contre elle. C'est des choses incroyables. Comment est-ce qu'on peut dire les choses comme ça à l'avance? Eh bien, c'est parce que c'est Dieu qui parle. Abraham est considéré comme un prophète Moïse aussi est considéré comme un prophète. On sait la valeur de ces hommes à travers qui Dieu parlait. Et Ésaïe, c'est celui qui a écrit le texte que j'ai lu tout à l'heure. Et lui aussi, c'est un prophète de Dieu. Dieu utilisait les prophètes pour parler au peuple. Et de temps en temps, il leur disait ce qui allait arriver pour les tranquilliser, leur dire « n'ayez crainte ». Et dans le texte que nous avons lu en Ésaïe, au début, c'est le chaos. Alors, mais il dit, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant de l'angoisse. Et on voit qu'il y a un monde angoissé et Dieu dit, ça ne sera pas toujours comme ça. Quelque chose va se passer. Israël sera persécuté, mais Dieu dit aussi pour lui, quelque chose va se passer. Et cette chose incroyable qui se passe, on le trouve au verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Un enfant nous est né. Alors, au début du message, je vais vous expliquer que ça n'a rien à voir avec Eliam. Et à la fin du message, je vais vous expliquer que ça a tout à voir avec Eliam. Ça a même tout à voir avec chacun de nous. Alors ici, un enfant va naître. C'est la promesse de Dieu. Et cet enfant, on lui donne des titres. On l'appelle admirable. C'est même le mot qui est utilisé pour surnaturel. Admirable. Je ne sais pas si ceux qui connaissent l'histoire de je pense que c'est les parents de Samson qui voient un ange et ils demandent à l'ange quel est ton nom. Et l'ange répond, mon nom est merveilleux. Et c'est à peu près la même chose ici. Et cet ange disparaît en partant dans les flammes et remonte au ciel. Et on nous dit que cet enfant qui va naître s'appellera, est admirable. Il est conseiller. Étonnant, Dieu puissant. Père de l'éternité ou Père éternel, Prince de paix. Et moi, ce qui m'a interpellé ce matin, tous ces titres méritent d'être soulignés, mais c'est Père éternel ou Père de l'éternité. Pourquoi ? Parce qu'on me dit, plus tard, un enfant va naître pour apporter la paix dans le monde. Et il sera appelé Père de l'éternité. Comment est-ce qu'un enfant qui va naître peut-il être éternel ? C'est pas logique. Et dans la Bible, il y a beaucoup de choses comme ça. On se dit, mais comment c'est possible ? Et c'est parce que Dieu nous révèle des choses qui ne sont même pas montées à la pensée de l'homme. Il est le Père de l'éternité. Comment un enfant peut-il être le Père de l'éternité ? Regardons un autre prophète, Michée. Là, c'est un passage très très connu, parce que les rois mages, lorsqu'ils cherchaient Jésus qui venait de naître, eh bien, ils sont allés voir le roi, ils lui ont dit où doit naître. Et le roi a regardé et il a vu cette prophétie. Alors, Michée 5 au verset 1. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens, aux jours de l'éternité. Quelqu'un va naître, quelqu'un va devenir le roi d'Israël, nous est-il dit, et on nous dit, ses activités remontent aux jours anciens, au temps de l'éternité. Vous voyez bien qu'on n'est pas en train de parler d'un enfant normal. On est en train de parler de quelque chose que Dieu nous révèle et qui dépasse notre entendement. Un enfant naît et il est lui-même le Père de l'éternité. Jésus, qui connaissait les prophéties, s'en amusait. Vous savez, souvent on venait essayer de le piéger, de lui dire, lui poser des questions pour essayer de le coincer. Et un jour, Jésus leur a fait une devinette. C'est en Matthieu 22, on va le lire aussi. Après, on lira un peu moins. Matthieu 22. Comme les pharisiens étaient au verset 41, pardon. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant : Que pensez-vous du Christ ? De qui est-il fils ? Ils répondirent : De David. Et Jésus leur dit : Comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il son Seigneur ? Lorsqu'il dit : Le Seigneur a dit à mon Seigneur : Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils ? Vous voyez, les Juifs ne comprenaient pas. Ils ne savaient pas. Ils pensent, ben oui, le Messie qui va arriver, ça doit être la descendance de David, et effectivement. Mais ils ne savaient pas que Dieu allait faire cette chose incroyable d'envoyer son propre fils qui allait venir ici-bas pour nous sauver. Lorsqu'on regarde Hébreux 1, la Bible nous dit que après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par ses serviteurs les prophètes, il nous parle maintenant par le Fils, par son propre Fils. C'est ça la prophétie. C'est ça qui explique qu'un enfant qui naît soit aussi le Père de l'éternité. Lorsque Jésus envisageait sa mort et sa résurrection, il disait « Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Hébreux nous dit que quand Dieu lui a conçu un corps et qu'il est arrivé ici-bas sur la terre, il avait l'air d'un bébé. Mais Dieu a donné quand même cet ordre aux anges, « Adorez-le. » Les anges de Dieu se sont prosternés devant un nourrisson qui était là. La terreur régnait sur la terre et Dieu dit, mais ça ne durera pas. Je vais envoyer quelqu'un. Je vais envoyer mon enfant. Et il va changer tout ça. C'est pour ça que celui qui est né est aussi le Père de l'éternité. C'est cette faculté que Dieu a, hein. Moïse disait d'éternité en éternité, tu es Dieu. Dans le psaume 139, Dieu, on parle de Dieu et puis le psalmiste dit « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient déjà et sur mon livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. » Dans l'épître aux Éphésiens, Dieu parle de l'Église et il dit « Il nous a prédestinés au salut. » Il nous a prédestinés à être ses enfants avant même la fondation du monde. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça, puisqu'il est éternel. Il dit les choses avant qu'elles arrivent. Et il prépare nos cœurs à recevoir celui qui doit venir et enfin mettre la paix en nous. Ce n'est pas un enfant comme les autres. C'est le Fils de Dieu lui-même. Alors, Jean 3,16, le texte que nous avons lu dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alors, ce n'est pas Dieu qui a dit à son Fils « Bon ben, j'ai tout décidé, toi, tu vas descendre, tu vas aller sauver les hommes parce que je les aime. » Alors, en Hébreux 10, la Bible nous parle de Christ et il nous dit qu'il dit à Dieu « Tu n'as créé aucun sacrifice pour le péché, mais tu m'as formé un corps. » Et j'ai dit « Me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté. » Dans le rouleau du livre, c'est-à-dire dans la Bible, il est question de moi. Et c'est comme ça que Jésus est venu. C'était le désir du Père et c'était le désir aussi de Jésus de venir donner sa vie pour nous. Dans Jean 10, on peut le prendre, celui-là. Jean 10. partir du verset 14. C'est Jésus qui parle et il dit « Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent, comme je connais le Père et comme il me connaît. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, celles-là aussi. Il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Et là, on voit que Jésus, lorsqu'il est venu, il savait pourquoi il était venu. Il savait qu'il était venu mourir. Mais il savait aussi qu'il avait le pouvoir de donner sa vie et qu'il avait le pouvoir de reprendre sa vie. En Colossiens, il y a un passage qui est merveilleux. Il dit, il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Ça veut dire qu'il les a ridiculisées. Dieu est venu et il s'est mis dans une situation de faiblesse en devenant un être humain. Il a fait pire. Il s'est laissé lier par la mort. Et même lié par la mort, il a triomphé de Satan. Vous savez, c'est un peu comme quelqu'un qui serait présomptueux, qui cherche à se battre contre vous, et puis qui dit, ben moi, vas-y, attache-moi les mains derrière le dos. Vas-y, mets-moi encore un bandeau. Et puis qui triomphe de vous. Et c'est ce que Dieu a fait. Il est venu ici-bas, il s'est mis dans la situation d'un homme. Il a pris notre humanité. Il a accepté d'être lié par la mort. Et il a triomphé de la mort. Cet enfant qui devait naître et qui était à la fois un nouveau-né, mais aussi le Père de l'éternité. C'était les choses que Dieu avait prévues. C'était les choses qu'il avait choisies. Lorsqu'il était sur la croix en train de mourir, il s'est mis à dire « Eli, Eli, lama sabachthani ». Alors, les gens écoutaient, ils ont dit « Ah, on dirait qu'il appelle Eli. On va laisser voir pour voir si Eli va venir le sauver. » Et en réalité, qu'est-ce qu'il faisait? Il était en train de réciter les psaumes. Le psaume 22, on va le prendre aussi. Et au verset 2, il dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes ? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit et je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le mépris des peuples. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent leur bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera puisqu'il l'aime. Il le délivrera puisqu'il l'aime. » Et on voit dans ce psaume que Jésus qui s'est dit « Bon, je vais y aller. Je vais être cet agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Eh bien, savait ce qu'il attendait. Il savait ce qu'il allait souffrir. Un peu plus loin dans le psaume, il dit « Eux, ils regardent, ils secouent la tête, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique, je pourrais compter tous mes os. » Et il dit « Tu me réduis à la poussière de la mort. » Il le savait, toutes ces choses. Mais cet être d'éternité, cet être admirable, comme nous l'avons lu, a choisi de venir, de devenir un être humain et de donner sa vie pour chacun de nous. Vous savez, c'est le seul message important dans la Bible. C'est que Dieu nous aime et qu'il a envoyé Jésus pour mourir sur la croix pour nous. Pour être sûr qu'on ne se tromperait pas, il a permis que des prophètes se succèdent et que tous parlent du même, de Jésus-Christ, de celui qui devait venir pour nous sauver. Ésaïe 53 nous dit « Après avoir livré sa vie en sacrifice, Il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Tout était prévu. Tout était prévu. Pourquoi ? Pour que nous soyons sauvés. Dans Apocalypse, chapitre 3, il est dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre sa porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » Ce Dieu Tout-Puissant, c'est presque ridicule. Il dit « Je me mets à la porte de ton cœur et je toque à la porte. » On sait qu'il est Tout-Puissant, il pourrait exploser la porte. Il pourrait exploser ce monde. Mais il dit, je ne bouge pas, je reste là à ta porte et je frappe. À cause de ce verset Jean 3,16, ce n'est pas par violence qu'il veut régner sur nous. Il veut régner sur nos cœurs par amour. Il veut que nous nous tournions vers lui par amour. C'est pour ça qu'il frappe et il dit, ouvre-moi ton cœur. C'est étonnant parce que ce verset qu'on utilise souvent pour les inconvertis, en fin de compte, ça s'adresse à des chrétiens. À des gens qui peut-être ont compris le salut, se sont donnés à Dieu, mais traînent des pieds. Et Jésus leur dit, attention, je reviens bientôt. Préparez-vous, je ne veux pas que vous soyez désappointés dans la honte, parce que lorsque j'arriverai, vous ne serez pas prêts. Alors Jésus dit, eh ben moi je suis là, je toque à la porte. J'espère que tu m'ouvriras ton cœur, que tu me laisseras prendre possession de toi. Dans un autre texte, là, il n'est plus question des chrétiens, mais de tous, dans Pierre, il dit, ne vous trompez pas, Dieu, il tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, mais il use de patience envers vous, voulant que personne ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Je l'ai entendu plusieurs fois, des gens qui me disent, oui, mais ça a été écrit il y a 2000 ans. Les pères sont morts, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, Dieu n'a toujours rien fait. Et Dieu nous dit, détrompez-vous. J'ai tout pouvoir, mais je patiente, parce qu'il y a encore d'autres personnes que j'aimerais sauver. Il y a encore d'autres personnes pour qui je patiente. Acte 17 nous dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tout homme qu'ils ont à se repentir. On va le prendre ensemble parce que j'ai oublié le texte. Alors, acte 17, au verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes et en tout lieu qu'ils ont à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Alors là, Dieu s'adresse à chacun de nous et dit, ça ne m'intéresse pas ce que tu as vécu par le passé. Ça ne m'intéresse pas d'où tu viens. Je veux juste te dire que je suis prêt à pardonner tes péchés, à transformer ta vie. C'est pour ça que Paul dit, celui qui est en Christ, c'est-à-dire celui qui vient se réfugier en Jésus-Christ, eh bien, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Jésus dit qu'il ne mettra pas dehors celui qui vient à lui. C'est même l'inverse. On le voit dans les rues de la ville qui crie « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Un être admirable, surnaturel, préparé par Dieu avant même la fondation du monde, qui est venu comme un enfant, donné par Dieu. Il s'est donné lui-même. Pourquoi ? Pour que nous soyons sauvés. Pour que ceux qui l'aiment puissent dire, « Oui, Seigneur, je vois que le monde dans lequel je vis, c'est un monde de péché. Je vois que la violence remplit notre monde et il suffit d'ouvrir les informations. Je vois que l'injustice est là partout. Et je veux me réfugier en toi. Je sais que tu as donné ta vie à ma place. Eh bien, Jésus dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Il n'oblige pas non plus. Il dit, je vais marcher devant. Je vais vous appeler par votre nom. Je vais marcher devant et mes brebis vont me suivre. Aucune obligation. Il y a des gens, ça fait des années qu'ils luttent contre Dieu, qui disent non, ça ne m'intéresse pas, aucune obligation. Il y en a même qui disent quand je serai au ciel, je lui montrerai moi. Aucune obligation. Il se tient à la porte et il frappe, il dit, mon fils, donne-moi ton cœur, donne-moi ton cœur. C'est quelque chose d'incroyable. Le Dieu qui a créé l'univers, les étoiles, les galaxies, n'enfonce pas les portes, mais il patiente devant la porte de ton cœur. Il a bien écouté ton fils ? Il n'en a rien à faire pour l'instant. Mais c'est quelque chose d'important pour vous deux. Parce que c'est la seule chose qui soit importante à lui transmettre. C'est que le Tout-Puissant l'aime. Que le Tout-Puissant de toute éternité a préparé son salut. Et c'est ce que vous devrez montrer par votre vie, par votre façon d'agir. Il y a des parents qui vont donner la belle voiture à leurs enfants, qui vont faire en sorte qu'ils aient des bonnes études. Ah, j'ai mon fils, il est ingénieur, j'ai mon fils ceci. Ah ben, mon premier million, c'est mon papa qui me l'a donné. Et vous, vous lui offrirez quelque chose qui aura été préparé par le Dieu Tout-Puissant. Vous lui raconterez cette histoire, que Dieu l'aime et qui lui a ouvert sa porte. Un dernier verset pour finir, celui qui est au mur. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est un verset qui limite les choses. Il dit, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne, nul ne vient au Père, ça veut dire personne ne peut arriver à Dieu si c'est né à travers moi. C'est le seul que Dieu a prévu pour nous sauver, alors qu'on puisse prendre ce chemin. Jésus disait à ses disciples, « Large et spacieux est le chemin qui mène aux enfers. » Vous savez ce qu'il faut faire pour aller en enfer ? Rien. Laissez aller. Mais étroit et resserré est le chemin qui mène au ciel. Et il y en a peu qui le trouvent. Alors, ce matin, qu'on soit chrétien ou qu'on soit inconverti, on puisse ouvrir nos cœurs au Seigneur. Que le chrétien se dise, Seigneur, prends toute la place dans ma vie. Et que celui qui ne le connaît pas dise, Seigneur, je veux te donner ma vie. J'accepte ce cadeau que tu m'as fait. J'accepte ton pardon. Et que Dieu puisse vous aider par son esprit. Amen.